Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 26 juin 2010. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. Et de 14h à 17h, c'est le retour direct. Mais dans l'immédiat, voici la comédie militaire que vous attendez tous.
On a oublié de signaler, donc pour la dernière journée du congrès de la Ligue de l'Enseignement, donc c'est 14h à 17h, et c'est avec notre présidium dictatorich, Djernovic, Philippe Rézière, qui mène les interviews, et qui oublie la règle de base en radio, c'est-à-dire désannoncer l'invité et son émission. Voilà, c'est pour ça qu'on était coincés, parce qu'on n'avait pas le programme sous les yeux, il a fallu les rappeler.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec du sport, Ultimatum, Das Reich et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à tous et bienvenue. Donc vous êtes toujours à l'écoute de Radio FMR. J'espère que vous allez très bien. Bonjour Dus.
Bonjour.
Toujours en retard ?
Comme d'habitude.
D'accord. Bon, mais au moins tu es là. Bonjour Ultimatum.
Bonjour Daskrich.
Oui, avec le micro branché c'est mieux. Bonjour Daskrich.
Oui, je sais. Il y a eu quelques pétouilles hein, aussi jeudi dernier puisqu'on était en direct du musée des abattoirs. Enfin moi j'y étais pendant la tranche 17-20h mais toi en plus tu y étais depuis midi 14h. Pour les 10 ans du musée des abattoirs, musée d'art moderne de Toulouse, qui est un musée national, il faut le rappeler, en direct avec entre autres Kinou, Monique Blanquet, il y avait aussi à la prog musicale, il y avait Antoine du Mamie Van Doren Show et plein d'autres choses. Et le programme était vraiment intéressant en plus, c'est pour ça qu'on prend la peine d'en parler pour ceux qui aussi nous écoutent sur le podcast. Vas-y, je te
laisse. Alors, surtout, ne comptez pas sur nous pour vous rappeler les références des artistes ou des titres des œuvres parce qu'on n'a rien noté, mais par contre, c'est vrai que.
On n'a rien noté, on a ça.
Ah, ben oui, bon, on a le catalogue, le petit catalogue, on a le fascicule. Alors, il s'agit de l'exposition Fantasmagoria qui, personnellement, m'a beaucoup intéressé, puisque c'est une revisitation un petit peu de l'imagerie bande dessinée, comics.
Il y avait un peu de tout. Il y avait les collections principales du musée. Il y avait aussi une collection privée de. D'art ethnologique, hein, ce que l'on peut dire, africaine, mise en perspective par rapport à l'art moderne, des installations vidéo. Il y avait un truc absolument gigantesque qu'on ne pouvait pas louper à l'entrée et qui a déjà été présenté lors de l'inauguration du musée. C'est la cabane bretonne, comme je dis.
Ah oui, la cabane où il pleut à l'intérieur. Mais ça donne un côté zen sonore qui est pas négligeable. Et
ouais, c'est pas toi qui as réalisé sur la mezzanine les micros des
amis. Ah oui, après pour un problème sonore, non, ça va pas. Mais après, c'est vrai qu'en ce temps de.
C'était pas pire que le vous là, mais
ah, ouais, non, c'était pas pire. Non, mais c'est vrai qu'en ces temps de canicule, ça faisait un peu frais au cœur là de voir un peu de pluie à l'intérieur.
Et donc, toujours dans ce cadre absolument fabuleux hein, des anciens abattoirs de Toulouse et avec des œuvres d'art. C'est vrai qu'on apprécie plus ou moins certaines choses, notamment les intestins roses. Enfin, pour moi, c'est du caca enturbiné dans du papier toilette.
Ils sont toujours, eux ?
Oui, ils sont dans le musée. Ils sont dans le jardin Raymond IV qui est à côté.
Ah oui, d'accord, je les ai pas vus.
Musée Raymond IV, c'est littéralement autre chose. Attention, faut pas confondre. Il y a des choses qui marquent vraiment. Des installations provisoires, puisqu'il y a des artistes qui ont peint sur place. Il y en a d'autres qui ont fait des amas de briques et de brocs d'objets, des installations uniquement pour cette occasion-là. Et après, ça aura disparu. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Si vous réécoutez la tranche 17-20h, qu'on va bientôt mettre en ligne, j'espère, il y avait des explications d'artistes sous la conduite de l'interview de Monique Blanquet. C'était vraiment intéressant. Il y avait vraiment des choses qui étaient très très belles. D'autres en rapport avec la bande dessinée. Moi, ça m'a fait penser un peu à Camille Doucet, artiste québécois très très strange, ce qu'avaient fait les deux filles. Et il y avait un peu
oui,
de tout.
Tout à fait, oui.
Et en plus, on aura de la vidéo.
Et puis, on aura de la vidéo et on espère mettre en ligne nos galeries photos avec Enflammé aussi. Il va falloir qu'on puisse tout ça.
Et je remercie d'ailleurs l'ensemble des gens qui sont venus au pied levé, donc entre autres Ultimatum, entre autres Frédéric Dobat, Frédéric Etcheverry, Enflammé, les photographes de plateau et tout le reste.
Il y avait du monde.
Il y avait du monde. Je crois que les autres qui sont venus avec leur petite caméra et tout, ils étaient un petit peu impressionné. Là, on a sorti l'arme lourde. Mais c'était vraiment intéressant à voir. Je vous invite une fois de plus, deux choses. On va rappeler peut-être les références des bouquins qui sont disponibles sur place et que je pense que l'on peut demander auprès de la région Midi-Pyrénées et du musée des abattoirs, coédité avec le FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain de Midi-Pyrénées, à savoir le guide d'art contemporain de la région, sur lequel eh ben, on a un programme avec les œuvres publiques que l'on peut voir en exposition permanente, mais aussi les musées et aussi les galeries d'art privées qui existent. Donc il y a bien évidemment le centre photographie de Lectour, il y a l'art, dans, l'art un peu dans les parties publiques et tout le reste. Il y a un plan du métro de Toulouse qui est assez intéressant pour ceux qui sont en Toulouse, qui sont déjà venus. Ils savent peut-être que dans chacune des stations de métro de Toulouse, il y a une œuvre d'art. Et ben là, on sait enfin qui a fait quoi. Quoique, comme dans toute galerie d'art, bien évidemment, il y a le nom de l'artiste, le nom de l'œuvre et un résumé, soit de l'artiste, soit une introduction à l'œuvre. Donc c'est toujours intéressant. Et le bouquin un petit peu plus grand. Alors ils sont tous les deux disponibles. C'est le catalogue donc pour les 10 ans des abattoirs. Inventer le présent, fait avec le réseau d'art contemporain en collaboration. Il y a aussi bien des œuvres qui sont faites une rétrospective, par exemple l'art en collaboration avec des artistes qui vivent en banlieue, sur la banlieue en tant qu'objet artistique. Il y a bien évidemment le village de Fiac, qui est une initiative assez étonnante, où en fait on fait vivre en résidence des artistes avec des gens qui sont de ce petit village du Lot, si je me souviens bien. C'est vraiment intéressant. Et puis tous les ans, bien évidemment, il y a Printemps de Septembre qui a lieu le dernier week-end de septembre et première moitié du mois d'octobre. Ça reste, je veux dire, quelque chose de vivant, d'intéressant. Des fois, on est complètement, je veux dire, on reste interdit devant certaines œuvres. Oui, ça dit pas grand chose, mais il y en a d'autres. Et là, franchement, ce qui a été regroupé et la scénographie qui a été mise en scène dans le musée, sans compter que il y a la cour du musée et le jardin sur lequel il y a des œuvres d'art en elles-mêmes. Et en plus, il y a l'arrivée des siestes électroniques dans lesquelles on a pas mal de potes de la radio qui en font partie de ces séances de mix en journée sur une musique calme et tout. Ce sera toujours intéressant à voir. En tout cas, vraiment, on vous le recommande.
Et puis, c'est vrai qu'on a l'habitude de vous parler de jeux au salon du jeu, par exemple, avec des jeux de plateau. Ben là, il y avait un jeu qui était...
C'est vrai, on n'en a pas parlé, ça.
Oui, qui était fait sur les abattoirs. Donc, c'était un quiz pour vous interroger sur votre culture artistique. Donc, vous avez des questions sur, tel artiste, il appartenait à quel mouvement. Donc, si vous y connaissez rien absolument, vous avez un QCM entre 3 réponses. Si vous y connaissez, ben, on ne vous donne pas les 3 réponses. Donc, c'est pas mal
Donc, il y a plusieurs... niveau, c'est intéressant, quoi.
Oui, voilà. Donc c'est un créateur de jeu local qui a créé ça, qui était si vous y allez,
c'est commissionné, voilà. Et en plus, il est en vente à l'entrée. Voilà. Il y a aussi des DVD, à la fois des œuvres plastiques et aussi des reportages sur place qui sont faits, donc des introductions aux collections et tout ça. Ils ont une bibliothèque assez bien fournie. C'est vrai que ce côté-là, on a vraiment de la chance d'avoir un musée de qualité qui se veut vraiment à part par rapport justement au musée Georges Pompidou qui est le gros truc là qu'ils essaient de décentraliser. Là, c'est vraiment un musée qui est un musée régional à une échelle nationale. Un peu, je vais dire, comme le musée la bande dessinée là, qui a été inauguré à Angoulême où on était en janvier dernier. Plein d'autres choses, donc tout cela, plus info www.radio-fmr.net pour en savoir un petit peu plus, et on espère assez vite les vidéos. On va rester dans l'art avec la bande dessinée. C'est le supplément week-end numéro 244. Et tout à l'heure, on va parler d'une toute autre forme d'art commercial et qui pète un peu, mais ça, c'est autre chose. Encore, c'est pas du Michael Bay. Mais on va parler maintenant de bande dessinée avec Okusai. Okusai, qui est un artiste japonais extrêmement connu. On connaît sa vague, on connaît ses dessins plus ou moins fripons, on connaît aussi son quelques planches pour certains de sa manga, qui est un recueil de dessins qui est un peu justement allé plus ou moins introduire, c'est considéré un peu comme une introduction à la bande dessinée, hein, ce qu'il avait fait. Et là, et ben, c'est un auteur de manga assez connu, Shotaro Ishino. Y arriver. J'ai répété 4 fois chez moi quand même.
Ishinomori.
Shotaro Ishinomori. Donc c'est dans la collection Sensei chez Kana. Que du sport a beaucoup apprécié. Allez, je te laisse deviner ce qu'il a fait comme BD. Si je te dis que tu as tout de suite songé quand tu l'avais lu, tu as tout de suite songé à West Side Story. C'est l'auteur de Cyborg 009.
Oui, parce qu'il y avait des chorés à un moment donné.
Il y avait une chorégraphie et tout ça. Et tu dis, ah ouais, c'est trop génial et tout ça.
Ah bon, ok, ok, d'accord.
Et là, bon, c'est un autre classique, cet auteur disparu au Japon, qui est immensément classique et qu'on découvre enfin en France, qui parle d'un artiste classique japonais. Donc c'est dans la collection Sensei chez Kana. Alors forcément, vous avez vu son travail, que ce soit les 100 vues du Mont Fuji, vous connaissez forcément une des vagues qu'il a illustrées avec cette dynamique et cette barque de pêcheur. Ce qui est très amusant, c'est de, selon que l'on le lise dans le sens japonais ou dans le sens européen, cette peinture, soit les pêcheurs vont vers la vague, soit ils surfent sur la vague, on ne sait pas trop. Bref, il y a aussi, quand vous regardez un nanar des années 60-70, vous savez ce que veut dire l'expression « Oh, viens admirer ma collection d'estampes japonaises » ou ce genre de choses. Ekusai est un peintre qui a eu une énorme influence sur les artistes japonais à une époque où l'archipel était très replié sur lui-même et étonnamment aussi à l'international à peu près à la même époque. Lui-même s'était intéressé aux techniques des gaijin comme la perspective, il est l'un des premiers japonais à la maîtriser, le papier aquarelle, le bleu de russe qu'il introduit, ce qui lui a permis justement de donner ses teintes quand il travaillait la mer. Et en même temps, il était éternellement insatisfait de son travail. Mais on va commencer par le présenter. Okusai est en fait un pseudonyme qu'on pourrait traduire par le vieux fou de dessin. Et c'est vraiment dans tous les sens du terme. D'abord, quand il prend ce pseudonyme, il a 50 ans. Et allez, on est à une époque où l'espérance de vie dépassait difficilement les 50 ans. Il a vécu jusqu'à l'âge plus que vénérable de 90 ans. Et encore à notre époque, on aimerait tous atteindre au moins cet âge-là. Mais surtout, il n'a jamais arrêté de dessiner quand il a commencé. Okusai a changé maintes fois de nom. Au gré de son humeur, quand il changeait de technique de dessin, voire parfois pour échapper à un mari jaloux. Il a déménagé plus de 90 fois, son atelier a pris feu. Certains de ses travaux ont été détruits par rage ou dans une bagarre. Bref, sur les 30 000 dessins que nous connaissons de lui, on est sûr d'en avoir qu'une infime partie. Oui, parce que je vous ai dit qu'il échappait, il changeait de nom des fois à cause de Marie Jaloux, parce que ce vieux fou était un queutard. Okusai est décrit par Ishinomori comme un assoiffé de sexe, un vieil obsédé. C'est une biographie qui est vraiment iconoclaste avec des moments de comédie. Mais en fait, c'est assez proche du bonhomme quand on se souvient de ses œuvres très suggestives, comme le très troublant Songe de la femme du pêcheur. Une femme, un poulpe. Non seulement il a écrit un manga qu'il a intitulé Manga, mais il a aussi popularisé le hentai. Et il était aussi bien poursuivi par des maris dupés, par les modèles qu'il a délaissés, que par les mécréants qui voyaient en lui une machine à dessiner des billets de banque par sa simple signature. Il avait aussi cette manie de changer de nom quand ça lui chantait. S'il n'avait pas eu cette manie-là, peut-être qu'il aurait mieux vécu, ou peut-être qu'il n'aurait pas été affamé de dessiner. Tous les jours, il a voulu faire un dessin. Toute sa vie, il a vécu pauvre, ruiné. Il a été un bourreau de cœur, n'a cessé de changer de nom, eu la célébrité de son vivant, mais n'a jamais la richesse. Il a été infernal au point de faire craquer les auteurs de livres qu'il était censé illustrer. Quand il s'éteint en 1849, le manga rapporte qu'il n'a jamais dit quel serait son nouveau nom, mais il meurt avec de rares fidèles, dont la fille, sa fille, qui a suivi ses sautes d'humeur, a tenté d'éloigner les parasites et de le calmer sur la bagatelle. L'auteur de Borg 009 nous offre la vie hallucinante d'un peintre majeur. Non, attendez, je vais faire mon dardar. L'auteur de Cyborg 009 nous offre la vie hallucinante d'un peintre majeur qui a aussi bien influencé les artistes européens du 19e siècle que les auteurs de bandes dessinées. Bon voilà, j'ai pas le jingle évidemment. L'histoire est découpée en chapitres selon différentes époques de sa vie et les différents moments qu'il a portés. Les différents noms vraiment qu'il a eu à ces différents moments qu'il a portés. De Tokitano, qui est son vrai prénom, enfin du moins on ne sait pas puisqu'il est né orphelin, à Manji. Entre les scènes de comédie, on a droit à de super moments de mise en scène, de leçons graphiques impressionnantes, mêlant adaptation de dessins du maître et réinterprétation des paysages originels par Shotaro et Shonomori. L'histoire est passionnante, la bande dessinée est bluffante. Mais j'ai quand même un regret. J'ai un regret sur l'édition francophone. Celle-ci est d'un format légèrement plus petit que la trilogie Folle Passion de Kamimura, dont je vais parler maintenant, alors qu'ils sont dans la même collection et que cela semble évident de mettre les bouquins ensemble sur la même étagère. Shotaro Ishinomori Hokusai, c'est dans la collection Sensei chez Kana, et je vois Thomas quand même qui commence à se plonger dedans. Enfin, ça, c'est les impressions rapides, hein, en deux minutes, puisqu'il a commencé à le prendre au moment où j'ai commencé la chronique.
Mais en fait, je feuillette la BD pour voir un peu à quoi ça ressemble, et puis à chaque fois qu'il y a une repro d'une de ses peintures, ben, tu dois t'arrêter de feuilleter, de toute façon. donc, tu regardes, tu scotches, après tu repasses, t'en as une autre. Ah, d'accord, bon, ben, c'était, ouais. Ben, le gars, c'était pas... Ouais, il était fort, quoi.
Ouais, mais tu connaissais au moins les.
Oui, bien sûr, oui. De... Oui, oui, bon, après, comme tout
là,
monde,
le songe de la femme du pêcheur, là, avec le poulpe.
Bah, celui-là, avec
tout.
Le poulpe, non, le poulpe, je connaissais pas. Bah, en fait, je crois que je connais. Ah,
tu connais une adaptation peut-être plus récente qui a été faite.
Oui, il y en a eu beaucoup, hein.
Par Otomo, d'ailleurs, il me semble. Il y a aussi tous ces portraits d'acteurs de théâtre no, qui étaient que des hommes, ou encore des portraits de courtisanes ou les cauchemars qu'il faisait vers la fin de sa vie, c'est-à-dire à 85-90 ans, et il a encore une putain de patte ce mec, mais punaise, et tu te dis ah, 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 et à chaque fois il change d'école, alors que a priori quand on avait une école on n'en bougeait pas, on la transmettait à ses disciples. Kazuo Kamimura, Folle Passion, c'est une trilogie, et c'est vrai que je commence à la chroniquer à partir du tome 2, c'est dans la collection Sensei chez Kana, trilogie qui a commencé à être publiée en avril dernier, et là le nouveau tome, ben, il est sorti normalement cette semaine. Et Kamimura romance autour d'un des disciples d'Okusai, un jeune homme ambitieux, Sutehachi, qui a séduit l'un de ses modèles, femme d'un marchand de légumes, trompant ainsi sa femme mourante. Et là, c'est pour lui, on est dans une manga de Kamimura. Ce qui veut dire que les femmes sont superbes, vénéneuses, ambitieuses, désespérées, folles. Ah oui, parce que Kamimura, c'est Lady Snowblood, Lorsque nous vivons ensemble, le feu Shinago, c'est pas comme si Sutehara Ichi n'était pas prévenu. Il ne faut pas aimer les femmes, dans une œuvre signée Kamimura. Sutehara Ichi est donc le disciple du vénérable Hokusai. Ce dernier a un indéniable succès, mais il vit chichement avec sa fille. Il n'a pratiquement que les moyens que de se payer papier et encre. Et même pour Sutehara Ichi, qui vit dans un taudis d'une crasse ignoble. Mais Sutehara Ichi s'en fiche. Il a un ego monstrueux, vit largement au-dessus de ses moyens, boit l'argent que lui prêtent ses rares amis, trompe sa femme rarement malade. Bref, c'est un débauché qui a à peine du respect pour son maître. Et il est aussi connu pour ses dessins fripons. Faut dire qu'il s'y connaît en sauterie avec la femme du marchand de légumes ou les prostituées du village de Shinjuku. Ah tiens, déjà. Mais nous sommes au début du 19e siècle. Edo est une grande ville, mais pas encore le Tokyo moderne. C'est une ville de bois, de papier, qui peut s'embraser à n'importe quel moment. Et justement, une vague d'incendie dans les alentours fait penser à une main criminelle. Le voisinage peut devenir soupçonneux sur tout ce qui est trop en marge. Ivre, débauché, ambitieux, Sutehara Ichi est un aimant à ennui. Il dessine ses fantasmes qui sont publiés et donc connus sur la voie publique. Autour de lui, il tisse sa propre comédie humaine. Pendant ce temps-là, le vieux maître reste froid, concentré sur son art. Il n'a pas rogné malgré son comportement scandaleux. C'est peut-être parce qu'il va en faire un personnage d'un tir recueil. Tout cela n'est que du papier. Et le papier, ça brûle. L'histoire d'amour se finira forcément mal, et Kamimura nous estomaquera une fois de plus par son art consommé du dessin. Je ne peux que vous conseiller d'arriver jusqu'au superbe chapitre où il donne une leçon magistrale sur l'art traditionnel de transformer un dessin en gravure. C'est vraiment, 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 vraiment très beau. Kazuo Kamimura, Folle Passion, le tome 2 sur 3, dans la collection Sensei chez Kana. Et quand je parle de femmes vénéneuses, je rappelle que Lady Snowblood, eh ben c'est le manga qui a été adapté au cinéma et qui a inspiré un certain Quentin Tarantino, un Kill Bill, voire même deux. Mikado, d'accord, d'accord. Plaisir de France, remix. Je vous jure que c'est un CD tout neuf, à peine sorti du... Et en plus, là aussi, on a un problème sur le micro. À peine sorti Trax, pardon, Trax de numéro de juin. Mikado, D'accord, D'accord, Plaisir de France Remix. Et le cut ultime, c'est pas de moi. Voilà, c'est le CD qui saute, ça arrive. Allez, un petit peu de pub, et on a passé une pub avec une voix normale. Donc voilà, donc c'était jeudi dernier.
Le 24 juin 2010, les abattoirs de Toulouse fêtent leurs 10 ans avec Radio Éphémère. Une journée particulière, des émissions en direct, un plateau d'artistes, des animations, une soirée live musicale et projection vidéo. Les abattoirs fêtent leurs 10 ans. Un musée, un frac, une collection. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lesabattoirs.org.
Je voulais te surprendre pour que tu le dises. Hein, voilà. Non, c'est à l'écharle de Fitz, c'est sur la rive gauche. Voilà.
Voilà, ouais.
Parce que c'est vrai qu'on tout le monde a oublié de le dire.
Voilà. Là où dans le temps, il y avait des abattoirs.
Exactement.
Des vrais abattoirs où on tuait des bêtes.
Et c'est à côté.
Férocement.
Et si vous y allez en
avec
plus.
Avec plein de sang. De la cervelle.
Et si vous y allez en plus, on a bien l'ambiance froide en sous-sol, sous le niveau de la Garonne et tout, c'est super.
C'est tout ?
Ce moment vous est présenté par Super Bon Week-end.
Non, parce que tu faisais une blague le jeudi soir. Et maintenant, nous allons interviewer une table. Allez, du sport.
Le concept est intéressant. Alors, avec les beaux jours et bientôt les vacances, c'est l'heure de se mettre à lire un petit peu. Parce que le reste du temps, vous n'avez pas le temps. Ça, si déjà vous savez lire... Ce dont je doute fortement.
Pour toi, merci.
Ce dont je doute fortement.
Bah, tu sais, nous, c'est des images. Hein,
ouais. Puis bon, sur un écran. Merci, iPad. Alors là, c'est un vrai livre. Avec pas d'image dedans. Et qu'est-ce qu'il y a sur la couverture? Un clavier. Ouais, cool. Alors, c'est la dernière sortie de Michael Connelly. Qui s'appelle L'épouvantail, sorti chez Seuil. Michael Connelly, vous le connaissez certainement.
À tombeau ouvert.
Pas du tout.
Non ?
Pas du tout. Il a commencé son premier roman date de 93, Les égouts de Los Angeles. Puis en 95, La glace noire. Puis La blonde en béton en 96. Puis Le poète en 98, Le cadavre dans la Rolls, Créance de sang. Et là, vous dites tout de suite, ah bah voilà, c'est le film avec Clint Eastwood. Eh ben, c'est adapté du bouquin donc de Michael Connelly et donc de un de ces deux héros récurrents. Le premier, celui de Créance de sang, c'est Harry Bosch, Hieronymus Bosch, Jérôme Bosch. Eh oui, qui est nommé parce que sa mère était une fan de la peinture Le Jardin des Délices de Jérôme Bosch, qui se trouve actuellement au Musée du Prado à Madrid.
C'est pour continuer à Minute Culture.
Non, c'est parce qu'il faut que j'y aille absolument.
T'as envie de faire pipi?
Non, au musée des Prado. Et donc, à part Harry Bosch, il a un autre héros récurrent qui apparaît dans Le Poète, justement, et qui est un journaliste de Los Angeles. Alors, ça se passe à Los Angeles, ou dans les environs, bien sûr. Et Michael Connelly étant lui-même, au départ, journaliste, mais il a assez vite laissé tomber et il s'est mis à l'écriture avec beaucoup de succès. Et puis bon, il n'y a pas de problème, il a mieux fait de laisser tomber le journalisme, parce que si c'est pour raconter des trucs qu'il a entendus dans le vestiaire de l'équipe de foot américain, ou de basket des Lakers, ça vaut pas tellement le coup, on s'en fout, on s'en contrefout. Hein, c'est nettement plus intéressant ce qu'il écrit. Dans Le Poète, c'est donc Jack McEvoy, le journaliste qui est confronté à un super tueur en série qui découpe ses cadavres, les les enferme dans des sacs poubelles, mais à chaque fois, à l'endroit où il laisse le sac poubelle et tout, il laisse également un poème dessus, magnifique, très beau et tout. C'est pour ça qu'on le surnomme le poète. Et donc Jack McAvoy, à la fin de ce roman qui est vraiment excellent, hein, c'est un des meilleurs qu'il ait fait, Michael Connelly, quoique ils sont tous vraiment assez bien. Donc Jack McAvoy, eh bien, acquiert une certaine renommée, hein, dans le monde littéraire, car il écrit justement à propos de cette histoire. Et Jack McAvoy, on le retrouve quelques années plus tard, 7 ans après. Alors bon, bah, c'est le décalage est pas aussi énorme que le décalage qu'il y a entre l'écriture du roman Le Poète, qui est sorti en 97, et celui-là qui est sorti donc en 2010. Donc ça fait 13 ans. Là, l'histoire de l'épouvantail et de Jack McAvoy survient 7 ans après donc cette fameuse aventure, cette fameuse histoire du poète. Et Jack McAvoy, là, bah, il est embauché par le plus prestigieux journal de Los Angeles, le LA Times. Et c'est le rédacteur en chef, le type, le journaliste en chef qui s'occupe de toutes les affaires criminelles. Donc dans le LA Times, c'est un petit peu normal, parce que c'est lui qui s'est occupé donc de cette affaire du poète, et il a acquis une certaine légitimité. Et là, au début du bouquin, c'est assez intéressant, parce qu'au début du bouquin, eh bien, ça nous cite un petit peu l'état des lieux de ce qu'est l'écriture journalistique, de ce que sont les journaux papier actuellement par rapport à la concurrence du numérique, qui est vraiment féroce. Et quel que soit le journal, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit un super gros titre, il n'y a qu'à voir le bordel que c'est en ce moment pour les quotidiens en France, hein, Le Monde qui doit être racheté par les Inroc ou je sais pas quoi.
Aux dernières nouvelles, c'est plus le Berger et le mec de Free plutôt que Orange et le Nouvel Obs.
Tous les quotidiens en France sont en train de se casser la gueule.
Mais tous les quotidiens tout court se cassent la gueule.
Oui, et tous les quotidiens tout court. Et donc, Michael Connelly explique un petit peu cette chose-là par le fait que Jack McAvoy, début du bouquin, se fait un rendez-vous donc avec son patron, enfin du moins avec le DRH, on va dire, qui lui dit c'est bon, il y a des graissages dans l'entreprise, donc il y en a 100 qui doivent partir et tu es le 99e. Et donc t'as encore 15 jours, tu fais encore ton boulot pendant 15 jours, puis après tu te barres, il n'y a pas de problème. Et donc Jack McAvoy, il va se dire je continue mon boulot et tout. Et par hasard, on le met sur une histoire, parce que c'est lui qui suit les enquêtes criminelles, les crimes un peu crapuleux, un petit peu heavy. Et là, il se retrouve confronté à une dernière histoire. Il se dit c'est la dernière, je vais faire ça par-dessus la jambe, tranquille. Et c'est l'histoire d'une nana qu'on retrouve dans le coffre d'une voiture en plein milieu de la zone de Los Angeles, qui est plus ou moins comme Chocolate City, Washington, c'est-à-dire fréquenté à 95% par des blacks, où les blancs ils rentrent juste accompagnés, parce que sinon tu rentres pas. Enfin, si tu rentres, mais tu sors pas. Pas vivant ou pas entier, quoi. Et en fait, cette histoire a l'air assez pourrie, parce que le coupable est vite arrêté et le mec il avoue, donc l'enquête est pratiquement close, hein. Il n'y a plus qu'à le mettre en accusation et puis le tour est joué. mais il va y avoir quelques petites incohérences, et il se dit je vais faire un article qui va prendre le parti du mec qui est condamné, enfin qui est inculpé, hein. Prendre un angle un petit peu différent que le reportage habituel du crime vu du côté des policiers, l'enquête en elle-même. Et donc il va rencontrer ce jeune gars qui a 16 ans et qui donc a quand même dégommé la nana, l'a étranglée plusieurs fois, c'est-à-dire il l'étrangle, elle s'évanouit, il la réveille, il l'étrangle deuxième fois, il la réveille et tout. Et puis dernière, il trouve qu'il y a des traces bizarres sur les jambes, c'est pas net, quoi. Et puis elle a été étouffée après dans un sac plastique, hein, pour vraiment qu'elle meure. Et donc il trouve qu'il y a quand même quelques trucs bizarres. Et donc il va d'abord interviewer la mère, enfin qui n'est pas la vraie mère du jeune caïd des cités. qui vend de la dope et tout, enfin qui est le coupable idéal en fait, hein, puisqu'en plus le mec au bout de 9 heures d'interrogatoire, il avoue, hein, il dit j'ai pris la bagnole, on a retrouvé des empreintes d'ADN, on a retrouvé des empreintes digitales, donc il n'y a pas de problème, a priori c'est une histoire nickel, hein, c'est coulé dans le béton, il peut y aller tranquille. Et donc lui s'intéresse plus ou moins à ce côté-là et commence à trouver qu'il y a des trucs un petit peu bizarres et qu'il y a quelques coïncidences avec d'autres affaires non élucidées. Et donc, sans pousser le bouchon trop loin, il se dit bon, ok, je vais faire mon boulot consciencieusement jusqu'au bout. Et puis voilà, au bout de 15 jours, je me barre, hein, de toute façon. Et puis bon, bah, j'écrirai mon roman. J'ai un peu de fric de côté. J'ai une maison que j'ai pu acheter grâce à la vente de mon roman sur Le Poète. Enfin bon, des petits trucs comme ça. Mais bah, ça va prendre un détour un petit peu inhabituel parce que bon, en se rendant à Las Vegas pour interviewer un autre type qui se fait accuser de la même façon, on a retrouvé une nana, la femme d'un type qui est en prison, qui a été condamné donc pour le meurtre de sa femme, il se rend compte qu'il y a vraiment quelques similitudes qui sont quand même assez étranges. Et il est en train de se dire, ben, on n'est pas en présence d'un autre faux coupable par rapport au premier. Et là, ben, c'est en poussant un petit peu plus loin l'histoire qui va se retrouver embringuée justement quoi, bien dans une espèce de chasse à l'homme, mais inversée. Car en fait, c'est le tueur en série qui a tué, bien entendu, les deux personnes plus d'autres qui va justement essayer de la pâter parce que ce tueur en série... comme ce qui est plus ou moins un lieu commun, on va dire, mais qui n'est pas vrai pour tous les tueurs en série, c'est un tueur en série qui s'est bien renseigné, qui a une bonne connaissance des anciens tueurs en série, des maîtres du meurtre. Et donc, il se dit, bon, bah, ce mec, il a lu mon bouquin, enfin bon, peut-être qu'on va retrouver ce bouquin quoi, parmi ça, quand on le chopera, enfin... Et ben, ça ne passe pas exactement comme ça. Et pour faire un espèce de... parallèle par rapport et un retour en arrière par rapport au poète, en fait, eh bien, il va appeler à la rescousse Rachel Walling, qui est en fait une profileuse du FBI et qu'il avait connue justement, et d'ailleurs avec qui il avait eu une aventure, et qui reste un petit peu la femme de sa vie en fait, hein, la femme qu'il a toujours aimée, qu'il avait connue justement à l'occasion de cette aventure du poète. Et donc il va un petit peu l'appeler à l'aide et elle bah, va venir à son secours et tout. Il manque de peu de se faire dégommer bien entendu. Et là bah, on va se rendre compte au fur et à mesure que le tueur, ce n'est pas un tueur mais plusieurs, je vous en dis pas plus quand même. Et que ce type là en fait, eh bien on l'apprend assez tôt dans le bouquin. C'est-à-dire Connelly s'amuse à faire une espèce de ping-pong entre la vie du tueur, la façon dont il organise sa vie et ses meurtres, et l'enquête de Jack McAvoy. Quoi. Et bon, ce tueur en série, en fait, est un type qui travaille, est un hacker, on peut dire ça comme ça, car il travaille dans une boîte qui est une boîte qui fournit des banques de données, hein, c'est-à-dire qu'il y a des super serveurs un peu partout et qui garantit la confidentialité de toutes les données. La plupart du temps pour des entreprises qui sont des cabinets d'avocats, des trucs comme ça, et qui bon ont vraiment trop d'archives papier et tout, qui donc archivent tout sur du numérique.
Et puis c'est plus facile de faire une bête requête sur une base de données qu'aller farfouiller dans 2 ans d'archives papier.
Tout à fait.
D'un vieux dossier.
Voilà, c'est ça. Et donc là, c'est pareil, il y a également le rapport entre l'écriture sur papier et l'écriture sur numérique. C'est assez finement mené là par Michael Connelly. Et bon, bah, comme d'habitude, hein, c'est le bouquin dans lequel tu rentres, tu te dis bon, où est-ce qu'il veut en venir, ça a l'air un petit peu comme ça, décalé. On a des choses qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres au départ, et au fur et à mesure, tout s'imbrique, et surtout, tout s'accélère. C'est-à-dire qu'au départ, ça commence très lent, très doucement, mais tout s'accélère au fur et à mesure et tout. Et ce qui fait que bon bah au bout du premier quart du bouquin tu te dis putain faut que je le finisse quoi celui-là, je peux pas le laisser tomber, c'est pas non c'est trop bon, y a pas de problème. C'est ça, c'est Michael Connelly généralement hein, de toute façon quoi, quel que soit le roman. Il y a quelques romans qui sont quand même un petit peu plus faibles, on va dire, ça il faut l'avouer, mais ça reste quand même de haute teneur, il n'y a pas de problème, ne serait-ce que parce que ces deux personnages principaux, que ce soit Harry Bosch ou que ce soit Jack McAvoy, eh bien, ont cette espèce de nature qui est propre hein, à vraiment allécher le lecteur et à le maintenir comme ça en tension, quoi. Donc, c'est l'épouvantail de Michael Connelly, c'est la dernière sortie. Là, c'est le bouquin qui coûte cher, c'est-à-dire environ 20€, hein, c'est la grosse collection. Mais les Michael Connelly, on peut également les trouver en collection de poche, plus généralement dans la collection point policier. Là, c'est chez Seuil Policier, donc Michael Connelly, l'épouvantail. Je vous le conseille, c'est un excellent polar pour l'été. Bah, je pense qu'il y en aura peut-être d'autres hein, pour cet été, parce que là, je m'y suis pris un petit peu tôt.
Oui, c'est clair. Mais si je me trompe d'ailleurs, je crois qu'il avait travaillé sur pas mal d'adaptations au cinéma. Et il avait aussi écrit des films, mais des épisodes de séries. Peut-être. Je ne suis pas sûr.
Peut-être, peut-être.
Je suis pas sûr de mon coup.
Attention, parce qu'il a un presque homonyme qui fait également dans le polar assez sanguinolent et assez tueur en série, qui s'appelle Joseph Connolly. À ne pas confondre, justement.
Ah, je confondais avec Joseph Connolly.
Voilà, c'est ça. Hein, attention, quoi. Mais qui, Joseph Connolly également, écrit de très bons boulots, des très beaux bouquins. Mais c'est plus dans la une veine un peu plus trash, on va dire, dès le départ, quoi. Hein, Connolly est quand même plus dans l'enquête et tout. Et dans la restitution de la vie telle qu'elle est. Hein. C'est-à-dire que, bon, c'est un excellent. Un mec qui décrit très bien les situations, qui décrit très bien les endroits, quoi. Pour ça, il est vraiment très très fort, Michael Connelly. Donc L'Épouvantail, hein, je le rappelle, chez Seuil. Et je pense d'ici la fin de l'année, vous le trouverez en format poche sans problème.
Merci Gus. Et maintenant, s'il vous plaît, c'est l'heure du Fantasy Mondial. Raisonnez, vous vous êtes là.
Ah, c'est... D'accord, c'est... Sur le programme, c'était marqué l'inverse, mais...
Wow.
D'accord, bon, faire... on le fait à la Walouf.
On le fait à la TF1.
Voilà. Allez, on diffuse les chroniques dans le désordre. Allez, aujourd'hui, donc dans la saga Les Crevettes au Mondial de football, puisque nous rappelons que le Mondial se déroule en Afrique du Sud et que, comme nous avons beaucoup aimé le film District 9 qui se passait en Afrique du Sud, avec qui mettait en scène des crevettes, on s'est dit, mais quelle espèce de crevette serait plus prédisposée
pour jouer au foot ? On parlera des mains de District 9 dans quelques minutes.
Tout à fait. Et aujourd'hui, après les arachnides de Starship Troopers et les martiens de Mars Attacks, nous avons donc les aliens de la saga Alien, parce qu'on passe dans le lourd maintenant, attention, hein, c'est plus de la blague. Alors, le stade emblématique comme les autres, c'est le Fiorina Stadium 161, hein, voilà, de la planète d'origine, licenciée. Alors c'est une fédération à l'agonie, en grande partie à cause d'absence de structure, c'est pas vraiment un peu très structuré, mais il y a quand même un grand nombre de pratiquants, c'est ce qui va pour eux, c'est un point positif. La formation... Alors ce sont surtout des planqués, hein, qui attendent le bon moment pour sortir en contre. C'est pour ça qu'on les voit pas du tout pendant 60 minutes et puis paf, un contre derrière la gueule et puis c'est bon, t'as déjà des équipiers qui sont un peu sur la touche. Alors historiquement, leurs équipes étaient un peu autogérées, c'était l'anarchie totale. Il n'y avait pas de capitaine, il n'y avait pas d'entraîneur, il n'y avait pas de soigneur, il n'y avait pas de brancardier, etc. Et surtout, ils avaient une réputation d'ultra-violent qui respectait jamais et qui respectait aucune règle de correction sur un terrain. Ça a un peu déjoué en leur faveur, ils ont été expulsés de pas mal de compétitions à cause de ça, ils se sont vengés après par la suite, mais ça c'est plus de l'extra sportif, on va pas y retourner.
Et puis c'est vrai qu'ils aiment bien faire des croche-pattes avec leur queue. Ah, désolé.
Ah oui, mais c'est la morphologie des fois, ouais.
Ah, désolé.
Alors par contre, il y a eu un revirement parce que depuis le mondial 2371, il y a les aliens qui sont découverts une nouvelle arme, c'est-à-dire c'est la communication entre les lignes. Ce qu'on a vu notamment quand il réfléchissait pour sortir de cellules, hein, avec les vers, on l'a vu dans un certain film là. Ben, ce qui leur permet de mieux s'entendre pour jouer les hors-jeux et les coups francs avec les combinaisons justement, puisqu'avant c'était un peu bourrin, on va tout droit, et puis alors là maintenant comme ils sont capables de communiquer, ça va, ils peuvent faire des stratégies. Alors les forces, bon alors déjà ils sont super agiles, ils sont capables de courir sur comme des dératés sur tous les types de terrain. Donc c'est boueux, c'est gras, c'est sec, non, il n'y a pas de problème. Ils ont une faculté d'adaptation hors norme. Alors ils sont tour à tour adeptes du 1 contre 1 en mode facehugger, puis dotés d'une bonne allonge pour les tacles une fois développés, parce qu'après ils sont beaucoup plus grands, donc voilà, c'est une grosse faculté d'adaptation. Ensuite ils sont très vicieux, on l'a dit, c'est un peu comme les Balkans, hein, ils ont le vice dans la peau comme Irital un petit peu là. Ils usent et abusent de leur jet d'acide à l'insu des arbitres. Alors là ils sont très très forts, hein. L'arbitre a le dos tourné, il est masqué par un joueur, allez, un petit jet d'acide, l'autre il perd le ballon et puis c'est parti. Ensuite, c'est impossible d'utiliser le tirage de maillot contre eux, parce que déjà ils sont visqueux et glissent. Alors bon, franchement, pour les ceinturer, vas-y, t'as qu'à te lever tôt. Et puis enfin, contre eux, bah, les protèges tibias, ils servent à rien, puisque c'est pas les tibias qui visent, c'est plutôt les cerveaux des adversaires. Donc c'est vrai qu'il faut prévoir des casques adaptés, hein, ça, c'est, il faut être assez prévenu. Les faiblesses, bah, ils profitent surtout des zones d'ombre pour attendre dans leur moitié de terrain. Alors c'est vrai que dans les stades vétustes, ça peut fonctionner. Pour des stades super éclairés comme avec les normes de la FIFA, la configuration ne se prête pas trop à ce type de jeu. Alors ils sont un peu défavorisés, un peu pénalisés par rapport à ça. Et puis il faut savoir aussi qu'ils sont assez peu résistants quand il y a des tireurs bourrins qui leur envoient des mines dessus. Hein. Donc c'est bon à savoir quand il faut tirer les coups francs, vous mettez une grosse patate dans le mur, il y en a 2-3 sur le carreau, bon voilà. La spécialité, parce qu'il faut toujours une spécialité dans les équipes, c'est le jeu de tête. Parce que vous aurez remarqué, ils ont une tête assez bizarre. Ça a été un temps menacé d'interdiction et leurs coups de tête sont assez dévastateurs puisque notamment leur crâne, ils ont une grande surface, c'est plutôt des ovales et un arrondi, donc ils peuvent...
Oui, ils sont... c'est assez costaud et assez long.
C'est long et puis surtout qu'ils peuvent tirer, ils peuvent frapper la tête dans toutes les positions, de dos, de travers, alors que bon, nous on a une tête ronde. Bah, t'imagines un duel de la tête entre les aliens et les martiens. Les martiens, ils peuvent pas sauter déjà, mais bon, les pauvres.
Déjà, ils seraient malheureux, oui.
Puis bon, d'après certains ralentis, on a vu aussi qu'il y avait quelque chose d'un peu louche. Parce qu'il y avait quelque chose qui sortait de la tête au niveau de la mâchoire, mais les caméras c'est toujours mal positionné, ils sont assez forts pour essayer de pas se faire attraper. Les antécédents par rapport aux autres mondiaux, l'équipe des aliens, ils ont un peu brillé au mondial 2123, puisque c'était sur un exploit personnel de leur capitaine contre l'équipe du Nostromo. On se souvient de la chevauchée, là, il avait un peu médusé tout le monde. Bon, après, il a dû raccrocher les crampons. En 2179, pour leur deuxième participation au mondial, ils se sont fait laminer contre la Dream Team. Souvenez-vous, la magnifique équipe, la Bishop, Vasquez, Ripley, ça c'était le summum de l'équipe.
Équipe mixte, mais qui assurait pas mal. Pourtant, on disait que dans les vestiaires, des fois, ça gueulait. Hein.
Oui, bon, tu vois, Vasquez, on peut pas
comme
dire
quoi.
Que c'est assez mixte, mais...
Comme quoi.
Et comme quoi, oui, il y a les joueurs qui sont capables de s'entendre entre eux. Et puis enfin, en 2381, alors il y a une équipe montée de toutes pièces qui parvient à s'extirper des poules en battant l'équipe de l'Origa et donc se qualifie pour le mondial sud-africain. Petite allusion, puisque à la fin, on voit dans les scènes coupées, il y a le vaisseau qui se pose en Afrique du Sud. Ah ah.
Duquel ?
Du Résurrection.
Ok.
Voilà, donc on rappelle les références. C'était le petit topo sur les aliens, la saga alien. Donc les références, je les ai chopées sur l'excellent site qui s'appelle planète-alien.net. Vous avez la chronologie, les vaisseaux, les planètes, les écosystèmes, les équipes qui sont avec les membres, c'est divisé, les marines, t'as les membres de la compagnie Wayland, etc. Les films, donc c'est il y a eu les 4 pour l'instant avec le 5e qui est en préparation. Je crois que c'est Ridley Scott qui serait aux manettes pour faire une préquelle au premier. Donc Alien le 8e passager de Ridley Scott, Aliens le retour de Cameron, Alien 3 de Fincher et Alien la résurrection de Jean-Pierre Jeunet. On dira qu'il n'y a que ces films qui existent, hein, puisque les deux
trucs, AVP, tu veux dire.
Voilà, les deux AVP sont à oublier, hein, ils n'existent pas.
Quoique, il y a match aller, match retour, on en parlera peut-être.
Ah oui. Oui. Et donc voilà. Mais, de toute façon, on en reparlera puisqu'il y a le Predators produit par Rodriguez qui sort cet été d'ailleurs.
Merci Thomas, c'était Fantasy Mondial en direct. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Mais ça n'est pas fini puisque nous passons directement maintenant à la télévision. Eh bien. Merci, d'accord, ok. Là, un truc, c'est débranché, ça arrive, voilà. Oh, bonne franquette!
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries.
Et on va parler donc d'une vieille série des années 80, puisque donc on est en plein dedans, puisqu'on va parler de cinéma.
Ah la blague, ah, on y a cru. Ah
bah quand même, je suis mauvais, mais pas à ce point. Bam, kaboum, bam. Les explosions en Dolby Stéréo Visuel Surround 5.1 Surround sont présentées par Thomas. Was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.
Eh oui, aujourd'hui l'agence Tourisque, nouveau film de Joe Carnahan, avec Liam Neeson, Quinton Rampage Jackson, Bradley Cooper, Charlton Copley et Jessica Biel.
Ouais.
C'est Biel, Bill, Bail, je sais pas comment on dit.
Ouais, Bill, moi j'ai dit.
Jessica Biel. Alors, Hannibal Smith et sa bande sont des soldats hors pair de la guerre en Irak. Et le général en place les charge de récupérer des plaques de faux billets détenues par leurs ennemis. Mais la mission est piégée. Et les membres de la bande sont emprisonnés pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Décidés à prouver leur innocence, ils s'échappent et élaborent un plan. Alors, vous êtes prévenus, vous y allez, débranchez le cerveau, vous vous apprêtez à avoir la banane sur le visage, et vous acceptez qu'il y ait un truc complètement décomplexé, complètement débile, et c'est bon, et vous savourez. Voilà. Alors vous regardez un peu les critiques sur le film, ouais c'est très con, c'est explosif, mais c'est bien, ben voilà, ça résume bien le film. Donc on n'en demande pas beaucoup, hein. C'est juste que ça charcle, qu'on retrouve un petit peu l'ambiance rigolote de la série, parce que c'est vrai que la série avait un petit peu une humour cartoon BD, un petit peu avec Looping qui était n'importe quoi, Barracuda, tu savais pas trop d'où il sortait ce personnage, parce que tellement BD que voilà, pas réaliste du tout. Hannibal, le cerveau et futé qui passait son temps à flirter avec les nanas. Et ben là, on retrouve la même chose. Déjà le casting, ils ont pris Quinton Jackson, c'est un champion de Pride. Pride, c'est l'art du combat qui est presque sans aucune limite. Où tu n'as pas. Je me suis fait briefer hier, donc tu n'as pas le droit de taper sur la nuque et tu n'as pas le droit de mordre ou de frapper dans les parties. Mais sinon, tout le reste est autorisé. C'est-à-dire que.
De mordre, donc ils ont prévu que tu mordes.
Oui, donc c'est. En fait, tu peux, par exemple, prendre le gars la main avec les deux. La tête avec les deux mains derrière la nuque et lui l'assommer avec plein de coups de genoux. Et généralement, l'arbitre il attend quand même 6 à 7 coups qui pulvérise la tête avant d'arrêter le combat. Donc c'est assez sanglant, c'est assez violent parfois. Et donc, le gars qui interprète Mr. T dans le film, c'est un gars qui est issu de ce sport de sauvage. Et il est absolument parfait. C'est vrai que passer derrière Mr. T, il faut le faire.
Faut le vouloir.
Ça,
ouais.
C'est pas non plus. Mr. T est un peu plus charismatique. Mais,
il racontait dans une interview que lui, il était hyper malheureux quand il avait 6 ans et qu'il loupait une diffusion d'un épisode et que le personnage qu'il adorait, c'était le Looping.
Ah, bah tiens.
Comme quoi.
Voilà, Liam Neeson, nickel en Hannibal Smith, de toute façon, un peu, tu prends Liam Neeson, impossible qu'il rate n'importe quel personnage.
Il a vraiment la tête de l'acteur d'origine, quoi, je trouve. Mais je trouve que quand même, c'est une adaptation qui est intéressante.
Il fallait un acteur qui incarne un petit peu la sagesse et puis qui ait quand même un certain côté malicieux pour faire l'allumage de cigares. Alors c'est marrant parce que j'ai vu dans les anecdotes que c'est un ancien fumeur, en fait, Liam Neeson, et on lui a dit, à partir du moment où t'acceptes de faire Hannibal Smith, t'es obligé de fumer les cigares parce que, ah ouais, c'est vrai, c'est la philosophie du personnage. Bon, il s'est remis à fumer exprès pour le film, tu imagines
Oui, j'imagine surtout l'avenant sur le contrat.
Ouais. Et donc il disait oui, parce que c'est très important quand il fume le cigare, ça veut dire qu'il est en paix avec lui-même et avec le monde, parce que son plan s'est déroulé sans accroc, et puis voilà, il est content. Looping, on en parlait de District 9 tout à l'heure, c'est le héros de District 9, Charlton Copley, qui incarne Looping. Il est vraiment, comme dans la série, il est attendrissant, il est foufou, il est presque plus attendrissant que fou, parce que le Looping de la série est quand même sévèrement atteint. Dans le film, tu sens qu'il est... Il est loufoque, mais il a quand même une certaine... il a les pieds sur terre quand même un petit peu. Bon, il fait des trucs un peu bizarres. Et puis, il y a quand même encore la petite scénette de la chaussette. Donc, ils ont gardé quelques trucs comme ça. Après, c'est vrai que le film, il s'est adapté aux normes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quand même un blockbuster tout à fait classique. t'as quand même des scènes d'action complètement débiles, genre où ils essaient de faire voler un tank en l'air en tirant des boulets. Alors,
ouais, un tank parachuté tout en tirant donc avec la mitrailleuse du tank à travers les élingues du parachute sans problème.
Voilà, et en essayant de tirer des boulets pour essayer de faire dévier le tank dans un lac. Alors évidemment, t'as les gens de l'armée qui croient que ce sont des vrais fugitifs et qui ont commis les crimes dont ils sont accusés. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils essaient de faire voler un tank, monsieur. Voilà, il y a plein de petites répliques comme ça, c'est marrant. Et c'est vrai que t'as quand même des scènes assez rocambolesques comme ça, mais t'as quand même une certaine réalité dans le film, beaucoup moins barrée. Bon, t'as le contexte de la guerre en Irak, alors que la série c'est vraiment du n'importe quoi.
Pas une certaine réalité, une certaine actualité, Coco.
Oui, mais c'est le film.
The Boss of Two.
Oui, mais le film en fait est ancré quand même dans le. Avec quand même les deux pieds sur terre, et t'as quand même des scènes, même s'il y a des scènes qui sont n'importe quoi, t'as le reste du film, c'est t'as des complots, t'as des affaires de billets de banque et tout, alors que la série, ils arrivent dans un bled très poussiéreux, il y a des gars qui font leur loi avec des mitraillettes, et puis ils se font emprisonner dans une grange, et puis ils sortent avec des hélicoptères en papier mâché, bon voilà, c'était n'importe quoi. Alors que là, paradoxalement, tu as Looping qui fait ses bizarreries, et en fait ça tranche vachement avec le reste, puisqu'à un moment donné, il va te faire des barbecues au napalm, ou alors t'as une explosion, bon, voilà. Et puis évidemment, on en arrive, on va dire, un petit peu à la star du film, puisque il vole presque la vedette aux autres, puisque c'est futé, puisque tout le film en fait est centré autour de la dualité entre le binôme entre Smith et Futé, puisque tu vois que Smith c'est le patron, parce qu'en fait il faisait équipe avant, parce qu'on dans le film on voit où ils se rencontrent tous, sauf qu'il y en a deux qui se connaissaient, c'était Futé et Hannibal, et donc ils font un petit duo tous les deux, où il y a le maître et l'élève, et l'élève tu sens qu'il est Futé, il est quand même super intelligent, il est pas juste la machine à flirter avec les nanas, et il est quand même capable d'élaborer des plans aussi. Donc dès le départ, les petites discussions, Hannibal évident, Futé, t'as pas assez les pieds sur terre, il faut avoir la tête froide en toutes circonstances, tu es trop flambeur, tu joues avec la vie, or tu sens que c'est l'élève qui va apprendre à surpasser le maître, etc. Mmh. Donc c'est le film est centré autour de ça, et puis bon, Futé est interprété par Bradley Cooper, qui était le beau gosse de Berry Bad Trip et dans plusieurs films aussi, et qui jouait aussi un rôle récurrent dans la série Alias, qui est en train d'exploser actuellement. Et c'est vrai que bon, t'y vas avec des nanas, c'est bon, y a plein de scènes où il fait des séances d'UV, donc le gars tout dépoitraillé, je sors de la séance d'UV dans un lac parce que mes amis m'ont enlevé de la prison dans laquelle je croupissais, alors que j'ai rien demandé à personne, j'avais mes entrées dans la prison, je traitais tous les gardiens, ouais, salut ma poule et tout, et puis je sors des UV avec les petits masques sur les yeux, limite les petits concombres, et puis ah mais on est où, ah on t'a fait évader et tout, et puis alors, je suis en boxeur et j'ai fait 150 pompes avant. Voilà, bon, ça là c'est complètement décomplexé, débile, c'est marrant. Bon, alors évidemment, on sent qu'ils en gardent sous la pédale, parce que finalement à la fin du film,
c'est pas un film de tapette pourtant.
Bah non, ah non, ça c'est sûr. Hey, regarde mes tatouages.
Attention, c'est la journée de la marge de la fierté aujourd'hui, donc
aujourd'hui, je crois que c'était
le week-end dernier.
Oui.
Qu'est-ce que vous me dites, tes copains sur Twitter ? Ah, me racontez pas des conneries.
Et donc,
c'est ça Twitter. Ouais.
Et donc on en garde sous le champignon, si vous voulez. Et on sent que ils sont pas allés vraiment à fond non plus dans le film. Ils ont quand même planté l'ambiance. Ils ont montré qu'ils pouvaient faire du truc très con avec des explosions de partout, sans franchir la limite du très bourrin. C'est bourrin, mais juste ce qu'il faut, parce qu'il y a quand même pas mal de scènes rigolotes où ils profitent de la complicité entre les acteurs, puisque ce sont eux qui font le film, ce sont les personnages. Et alors, tu sens gros quand même, disons, que ça y va y avoir des suites. Alors, moi, je prends les paris que dans les suites, il y aura justement dissension dans le groupe, parce que dans le premier, tu dis, ouais, le groupe est super soudé. Évidemment, je pense qu'il y aura. Chacun va vouloir faire son petit bonhomme de chemin tout seul, où il y aura une rivalité entre Hannibal et Futé, pour savoir qui fait les. Il y aura Futé qui va se planter sur un plan, donc il y a Hannibal qui va vouloir reprendre la main sur le groupe. Je sens qu'il va y avoir ça dans les suites, mais on en reparlera, on retrouvera le sonore quand ça sortira. C'est juste ça, c'est que quand tu vois la fin du film, t'es arrivé à la fin du film, t'es au générique. Ah, mais ouais, tu sens qu'il y a un potentiel, mais ils n'ont pas allé à fond, bah, comme tous les premiers épisodes de saga.
En général, c'est la surprise, c'est la découverte.
Oui, voilà, donc, c'est la découverte. Voilà.
Faut en laisser pour encore vous surprendre au deuxième.
Ça va pas très loin non plus. C'est pour ça que moi, je dirais pas que c'est un grand film, mais même dans le genre, hein, parce que tu sens que bon, il y a aucune crédibilité, il y a l'action, mais faut pas aller chercher même les les modes dans lesquels ils s'évadent, voilà, c'est, enfin je vous raconte pas, mais c'est, tu t'y crois pas, mais tu dis bon c'est bon, ouais allez, ça se passe, et puis voilà, au niveau du scénario, franchement c'est vraiment un prétexte à la con, parce que c'est cousu de fil blanc. T'as l'agent Sosa qui est l'ex de QT, qui est la, donc Jessica Biel, et qui va essayer de les. Elle va jouer, si tu veux, le rôle du Colonel Decker qui est pas encore dans le film, et qui va les pourchasser. Et puis au départ, c'est comme le Marshall Tommy Lee Jones, qui au départ dit j'en ai rien à foutre, qu'on soit coupable ou non, il faut que je vous arrête. Et puis au fur et à mesure, ah ouais, peut-être qu'ils sont pas coupables. Et. Voilà, c'est un jeu du chat et de la souris, un peu de séduction aussi entre Futé et elle. Et bon, après, c'est cousu de fil blanc, ça enquille un petit peu les différents plans que, dont font preuve les membres de la bande pour s'échapper de plusieurs situations. Puis bon, ça s'enchaîne à un rythme sénateur, et puis tu arrives à la fin du film assez rapidement. Bon voilà, après ce qu'il y a de rigolo, parce que j'ai particulièrement bien aimé, ce sont les petits moments d'accalmie entre où justement tu vois la complicité entre les personnages, où il y a Barracuda 150 fois on lui propose de prendre l'avion, il veut pas, donc avec des stratagèmes comme dans la série ils essaient de l'endormir ou
Futé tranquillisant.
Voilà, c'est Looping qui souffre l'un et le souffre-douleur de l'autre, mais à plusieurs échelles en fait.
Ouais, mais des fois c'est Futé qui lui fout un coup derrière.
Oui, aussi, oui, ou alors à un moment donné ils l'avaient hypnotisé pour qu'il réagisse. Qui s'endorme au mot Eclipse aussi dans la série, je m'en souviens. Et alors après il y a plein de clins d'œil à la série. Par exemple, à un moment donné, il y a pour l'évasion d'un des membres de la série, il est en train de voir une séance sur un grand écran d'une série télé avec des jeeps et une bande de 4 qui est, alors c'est même pas maquillé, tu vois qu'ils sont en train de regarder la série Agence de Risque. Et en fait, il y a les autres membres de la bande dans leur Jeep. En fait, au moment où la Jeep qui arrive vers la caméra dans l'écran, en fait, il y a la Jeep qui traverse l'écran et dit « Ouais, c'est bon, viens avec nous !» Donc c'est assez marrant. Et ce qui... j'en viens donc un petit peu la morale de cette expérience de voir ce film L'Agence de Risque au cinéma, c'est que c'est un procédé, justement, la Jeep qui traverse l'écran, qui avait été utilisé par un autre réalisateur pour une autre adaptation de série télé qui était Mission Impossible par De Palma, où l'intro du film, c'est... tu vois le stratagème monté par l'équipe de Mission Impossible avec des gars grimés et tout. Si tu le vois sur un moniteur, donc t'as l'impression de regarder la télé, et t'as un léger travelling arrière, et tu vois que le personnage il va hors champ dans le moniteur, et il apparaît dans le format cinémascope, et tu vois que c'est Tom Cruise qui enlève son masque, et donc c'est la série qui traverse l'écran. Et ben là, c'est pas anodin si je parle de Mission Impossible, parce que franchement, l'Agence de Risque, c'est ce qu'aurait dû être finalement les adaptations de Mission Impossible au cinéma si ça avait pas été parasité par Tom Cruise. C'est un travail d'équipe, et justement le final du film, c'est la résolution, le plan qu'ils ourdissent, c'est vraiment un plan à la Mission Impossible et pas du tout à l'Agence de Risque. C'est à dire que c'est ça un petit peu la déception, c'est que t'as pas, alors tu les vois bricoler, mais c'est plus on va dire qu'ils sont plus professionnels et beaucoup plus de moyens que dans la série, où la série c'était vraiment MacGyver presque. C'était tiens, on a des bâches, on va faire un trempe-up, et puis après on va avec des voitures téléguidées essayer de porter des petits missiles et tout. Mais là non, pas trop, c'est vraiment à grande échelle avec des flammes de partout. Bon, c'est vrai que tu perds un petit peu le côté bricolo, et justement dans ce plan final tu vois ce qu'aurait pu faire l'équipe de Mission Impossible finalement. Et donc c'est le tour de force que fait le Joe Carnahan. Il adapte deux séries pour le prix d'une.
Non, mais de toute façon, il faut savoir que l'Agence Touriste de Hakim était de toute façon copié éhontément Mission Impossible, la série. Hein. Ça, c'est clair, ça a été avoué de toute façon. Quoi. Donc, c'est pas étonnant hein, qu'on utilise le même stratagème pour le film.
Et alors, il faut, j'en profite pour le dire parce qu'il y en a plein qui n'étaient pas au courant, il faut rester après le générique de fin.
Encore ?
Et malheureusement, sans qu'il y ait le morceau de rap en français qui est absolument insupportable dans le générique, et à la fin, on voit un caméo donc de Dirk Benedict et de Dwight Schultz, qui sont respectivement le Futé et le Looping de la série, ou qui sont confrontés justement à leur alter ego moderne. Donc, t'as Futé qui va donner des recettes pour bien faire des séries. Des bonnes séances d'UV au nouveau Futé, et donc il y a le Looping ancien qui va faire des bizarreries avec le nouveau, mais vous verrez ça. Donc voilà, bon, ça, tu passes quand même un bon moment, même si au gré des très bonnes critiques que ce film a eu, c'est quand même un poil exagéré, mais bon, l'Agence Touriste, quand même, loin d'être un film raté, c'est un film très sympathique d'été, où tu peux y aller en famille, y a pas, c'est pas sanguinolent, t'as quand même des gens qui meurent, mais voilà, c'est pas violent ni rien. Un film donc réalisé par Joe Carnahan, avec Liam Neeson, Quinton Jackson, Bradley Cooper, Charlton Copley et Jessica Biel.
Merci Thomas. Petite pause musicale avec les Scissor Sisters, extrait de leur nouvel album Night Work Invisible Light.
Light. the old party children, all wake from their slumber to debut the Bacchanal. Come to the light, into the light.
Et le morceau en question, Scissor Sisters, Invisible Light, a été diffusé sur le blog d'un copain qui s'appelle Nuage FM. Je désespère pas qu'un jour on va le foutre à l'antenne. Hein.
Oui, Nuage FM, qui, le blog d'un de nos chroniqueurs attitrés qui vient souvent, quelquefois ici.
Qui vient quelquefois pour parler en général d'ailleurs plus de jeux vidéo avec une fort bonne accuirance, je vais dire. Je vais y arriver.
Une accuirance.
Oh. Zou. Bah quoi, c'est à la mode. Hein. Il y a eu la fortitude là de Sarkozy récemment.
Ah bon, d'accord, ok. Je suis pas tellement ce genre de truc.
C'était toi, sinon on ressort la vidéo où tu danses la disco.
Ouais, d'accord.
Allez,
ouais, tu peux.
Tu peux. Allez, avance rapide.
Je cède mon copyright. Série à présent, et avec tout le football qu'on a en ce moment, c'est vachement dur. Déjà, au niveau de la programmation des films, j'ai décidé, parce que... TF1 là dans le cul profond quoi à propos des matchs de l'équipe de France vu qu'il n'y a plus d'équipe de France au mondial, donc il y a plein de matchs, ils savent pas trop s'ils vont les diffuser ou pas, et France 2 a pu en racheter et ils vont vers ça au gré de gré à gré, c'est à dire ok ce match m'intéresse, bon ok c'est nous qui le diffusons, tiens on te le rachète, ça marche bien, pas de problème. Et de ce fait sur le programme de la semaine, si tu veux, c'est pas compliqué, t'as soit le programme habituel, c'est-à-dire Doctor House le mardi, ou le match de foot. Et c'est pareil sur France 2. Pratiquement tous les jours de la semaine.
Donc on peut pas savoir à l'avance.
Donc tu peux pas savoir à l'avance s'ils vont diffuser le match ou s'ils vont diffuser la série. Ou le programme habituel. Donc TF1, France 2 ou France 3, même, tant pis pour vous. C'est pas grave, où on attend les deuxièmes parties de soirée, hein, où là, il n'y a pas de problème. Quoique, maintenant, la donne a un petit peu changé, parce que comme sans les matchs à élimination directe, il y a peut-être des prolongations et des tirs au but. Hein, donc ça dure plus longtemps, hein, il faut attendre jusqu'à minuit avant de se taper sa série favorite. Là n'est pas le sujet, Canal+, qui diffuse parallèlement à ça tous les matchs du Mondial, ça vous le savez bien, eh bien, continue dans sa tranche du jeudi soir à nous programmer des séries originales inédites. Et là, pour cet été, une petite série qui a beaucoup fait parler d'elle dès le départ parce que le concept était original et parce que c'était la nouvelle série de la chaîne américaine ABC et qui devait pallier l'absence et la fin de la série qui avait fait énormément parler d'elle et que on s'est dit à la fin, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que ce foutoir, on comprend plus rien. Que dalle, faut se mettre à 50 pour comprendre quelque chose, c'est Lost, qui avait fait vraiment le gros
succès. Faut se mettre à 50 pour comprendre quelque chose.
Donc ABC cherchait plus ou moins une série qui réussisse à capter autant les téléspectateurs et à jeter son dévolu sur donc ce Flash Forward, avec en plus un petit clin d'œil parce que c'est l'adaptation d'un roman d'un auteur canadien de science-fiction qui s'appelle Robert G. Sawyer.
Elle est très bonne.
Elle est très bonne. Alors, ils ont mis quand même les gros moyens, hein, c'est-à-dire l'adaptation de la série, c'est Brannon Braga qui avait fait 24 entre autres, et David Goyer qui nous a fait Blade entre autres au cinéma.
Ouais, hein, c'est un scénariste à la base fan de comics et qui a scénarisé les deux premiers, qui a réalisé le Blade 3, qui est une infamie totale.
Oui, oui, non, mais bon, faut dire que bon, bah, les adaptations des deux premiers, c'est pas mal, quoi.
Oui.
Bon, faut quand même rendre ça part des jeux. Et de plus, dans Flash Forward, eh bien, on retrouve quelques acteurs ou actrices qui ont œuvré dans Lost, dont Dominic Mulligan. Et Sonia Valger, il y a également Joseph Fien et John Cho. Alors, le concept est vachement simple et vachement intéressant et aussi vachement casse-gueule. S'agit tout simplement bien d'une période, 2 minutes 17, pendant laquelle tous les êtres humains perdent conscience, c'est-à-dire s'évanouissent pendant 2 minutes 17. Et c'est une durée pendant laquelle, pendant qu'ils sont évanouis, eh bien, chacun se voit projeté 6 mois plus tard, c'est-à-dire va connaître son futur 6 mois plus tard. Et donc, le postulat de base de Flash Forward, c'est après, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pendant ce laps de temps, pendant ces 2 minutes 17, bien entendu, tout continue, mais sans l'aide des êtres humains. C'est-à-dire que bon, bah, les pompiers qui sont en train d'éteindre un incendie, bah, l'incendie continue de cramer. Les pilotes d'avion qui sont aux commandes de leur avion, l'avion continue à planer sans les pilotes. Heureusement, les pilotages automatiques. Et l'ensemble du monde, comme ça. Donc, bon, bah, ok, ça va être le gros bordel, chaos total pendant 2017. Et puis, après, ce qu'il faut faire, c'est essayer de réparer les dommages causés, hein, bien entendu, par ce blackout total pendant 2017. Et l'autre histoire qui va peut-être être intéressante, c'est de suivre quelques personnages donc qui ont connu ce blackout, qui connaissent leur futur, et savoir comment ils vont se démêler. C'est-à-dire comment est-ce que je peux arranger pour que mon futur soit différent, c'est-à-dire toujours l'histoire du paradoxe temporel qui peut être intéressant mais également très casse-gueule, mais également comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce que ça se fait que pendant 2017 tout le monde se retrouve dans le blackout, tout le monde tombe dans l'inconscience. Donc ça peut être très intéressant, et comme c'est un concept un petit peu fumeux, faut bien l'avouer, hein, au départ ça n'a pas tellement séduit les Américains, et ça a duré une saison, et puis ciao les gars, les audiences sont pas assez bonnes, c'est la dictature de l'audimat et des annonceurs publicitaires qui a fait que Flash Forward
attention, parce que ABC l'a quand même bien soutenu, parce qu'ils ils auraient pu l'arrêter dès le 6e épisode.
Ils auraient pu l'arrêter, mais ils ont continué jusqu'à la fin de la saison, parce que justement
sachant
le concept paraissait intéressant.
Sachant que la fin reste en fin ouverte, c'est-à-dire on arrive à ce qui s'est passé, et ensuite on reste sur une fin ouverte, puisqu'il était question, dernière nouvelle encore, d'un accord avec un autre diffuseur. Pour l'instant, pas de nouvelles, donc c'est cuit.
Tant pis, parce que bon, c'est également la série qui s'est permis le luxe, à l'instar de Lost, de filmer un pilote à 10 millions de dollars. Enfin bon, on met les moyens, on y va à fond les manettes et tout. Il y a même quelques petits inserts qui rappellent un petit peu Lost. Il n'y a pas que le nom de l'auteur du bouquin originel, mais également quelques petites images comme ça qui disent « Ah, j'ai déjà vu ça quelque part » et tout. Ah bah ouais, là, ouais, c'est sûr. Bon voilà, c'est Flash Forward, donc diffusé par Canal+, à partir de jeudi prochain, 20h45. Une autre petite curiosité qui, là, a l'air bien plus sympathique et qui avait déjà été diffusée, mais sur une chaîne thématique cinéma, je crois que c'était sur Ciné Frisson, un truc comme ça. C'est une mini-série anglaise en 5 épisodes qui s'appelle Dead Set. Et qui, en fait, est sous un couvert de série horrifique gore. C'est franchement gore, il n'y a pas de problème. C'est anglais, donc c'est également très rigolo. Il y a plein de sous-entendus. C'est un petit peu une satire du monde de la télé-réalité. Le postulat de base, c'est tout simplement une émission de télé-réalité qui se déroule en Angleterre, tranquille, peinard et tout, et commence à être envahie par des zombies. Alors bon, ça peut donner un truc vraiment très sympathique. Avec la participation de Danina McCall, qui joue son propre rôle. Danina McCall est une animatrice de télé anglaise qui est très connue, qui a fait des émissions de musique rock'n'roll, pop music, anglaise traditionnelle, qui a également présenté le Top of the Pops, qui a fait d'autres émissions, je crois qu'elle a même fait une émission culinaire, qui est une présentatrice très connue et qui donc joue le rôle de l'animatrice principale et tout, mais qui va se faire dégommer assez rapidement. Et à ses côtés dans Dead Set, car tel est le nom de cette mini-série britannique. On a également Jaime Winston, Riz Ahmed, Elias Gabel et Andy Nyman. C'est diffusé à partir de ce soir sur Paris Première. Alors c'est un petit peu logique parce que bon bah c'est quand même du moins 12, hein. C'est du très sanguinolent, du très gore, mais on aime bien de toute façon. Donc c'est à partir de ce soir 22h40 et c'est l'intégralité donc de cette mini-série, les 5 épisodes qui sont diffusés à la suite ce soir sur Paris Première.
Tu disais le nom de l'actrice, pardon, Daria McCall.
Davina McCall.
Davina, d'accord.
Allez, vas-y. Sinon, autre chose, c'est la rubrique de téléfilm du vendredi soir sur Arte. Ah ouais, le troisième, après La Dette, je sais pas si vous avez vu hier soir, mais c'est vraiment pas mal, c'est assez sympa, quoi. Parce que bon, bah le match Espagne-Chili, quoi, c'était un petit peu merdique quand même, il faut l'avouer. Donc j'ai quand même un petit peu zappé, quoi, sur ce téléfilm israélien, pas mal, franchement. Et là, la semaine prochaine, c'est du téléfilm anglais, Harcèlement de Jamie Payne en 2009, avec casting 3 étoiles, David Morrissey, Tara Fitzgerald et Alex Lowe dans les rôles titres. Et c'est pas une adaptation, mais on revisite un petit peu, quoi, la thématique de, par exemple, Liaison Fatale. Je ne sais pas si vous avez vu le film avec Glenn Close et tout. C'est un petit peu le même style, sauf que c'est traité à la manière anglaise, donc c'est quand même gage de qualité. C'est sur Arte à partir de vendredi prochain, 20h35, Harcèlement. Donc
Juste une chose à propos de Daria McCall, en fait, elle a présenté Davina, elle a présenté 4 saisons de suite de Big Brother.
Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, parce que c'est la dernière saison, la dernière de Big Brother. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce qu'a fait Channel 4. C'est un enterrement avec une fanfare et tout ça. Mais alors, quand on a le degré zéro de la télévision qui sait aussi bien, on produit aussi bien une aussi belle bande-annonce, c'est quand même qu'on pourrait faire des efforts quand même en France aussi pour vendre de la merde.
Yes. Allez, à présent, plein de films à la télé la semaine prochaine. Si vous n'aimez pas le football, il y a quand même des trucs assez intéressants. Ouais. Ce soir, sur RTL9, Pandéléo et Court de Ted Post. Yeah, Clint Eastwood à fond les manettes. Ted Post, qui est un réalisateur de télé au départ, hein, qui n'a pas fait beaucoup de films. Il a fait The Peacemaker en 56, Tom Dooley en 59, Le Secret de la Planète des Singes en 70, Good Guys Wear Black en 77, et également un excellent film de guerre, Go Tell the Spartans, qu'on connaît vachement mieux en France sous le nom de Le Merdier. Mais qui est vraiment bien aussi, hein, y a pas de problème avec, je crois, Telly Savalas et encore d'autres bonnes têtes, quoi, de la télé et du cinéma.
Attention, Le Merdier, qui est un nom d'un roman qui a été traduit au cinéma par... Full Metal Jacket.
Ah. Pendant que vous continuez à chercher... Pendant que vous continuez à chercher sur TCM ce soir et dès la fin de l'après-midi, film 100% ado avec tout d'abord à 17h20 Breakfast Club de John Hughes, excellent. Ensuite à 18h55 Génération Rebelle de Richard Linklater en 93. À 20h40 La Folle Journée de Ferris Bueller du même John Hughes en 86 avec Matthew Broderick, Mia Sara, et il est bien aussi. Et à 22h20, j'en ai parlé la semaine dernière, Les Glandeurs de Kevin Smith avec Shannen Doherty.
Ah ouais. Tu veux toujours l'épouser?
Non, plus maintenant. Non. La chirurgie esthétique et moi, ça fait 2 quand même.
Madame du sport, si tu nous écoutes.
Mais elle le sait de toute façon.
Oui.
Alors, sur Polar, ce soir à 23h, Suddenly, où je dois tuer, de Lewis Allen, un film dans lequel Frank Sinatra est chargé de tuer le président des États-Unis.
Et il me semble que ça a été adapté récemment au cinéma, je veux pas dire une bêtise.
Peut-être.
Bon, mais il est étonnant, Sinatra, dans ce film.
Le film est pas extraordinaire, on va dire.
Pas du top, mais c'est pour le personnage, la manière dont c'est joué.
Voilà, c'est ça. C'est un des films dans lesquels on se rend compte que Sinatra est autre chose qu'un chanteur de charme, mais peut également un petit peu jouer la comédie. Mais à ses côtés, c'est vrai qu'il a des maîtres, James Gleason et surtout Sterling Hayden. Sterling Hayden, 1916-1986. On le voit, c'est dans le film de John Huston, Asphalt Jungle, ou Quand la ville d'or en français. On le voit également dans Chasse aux gangs, The Cities Dark de André de Toth, c'est en 54. Il est également dans Prince Vaillant de Henry Hathaway, de Johnny Guitar de Nicolas Ray, la même année en 1954. Il est également le héros principal de The Killing, pas la série danoise dont je vous parle chaque semaine, mais le premier Stanley Kubrick, l'ultime Razzia en français, Il joue également, Kubrick l'a bien aimé, donc il le reprend dans Docteur Strangelove ou Docteur Follamour en français, en 64. On le voit également dans The Godfather de Coppola en 72. On le voit également dans The Long Goodbye, Le Privé de Robert Altman l'année suivante en 73. On le voit également dans Novecento de Bernardo Bertolucci 1900.
Je vais le mettre à l'amende s'il redit on le voit.
Et il apparaît également. Il apparaît également dans Possession de Andrzej Żuławski en 81. Très grand acteur, hein, Sterling Hayden. Hein, vraiment quoi. Demain sur France 4, deux films excellents de Luc Besson. Subway tout d'abord à 20h35 et Le Grand Bleu à 22h15. Sur Direct 8.
Je vais rire enregistré, je suis désolé.
Sur Direct 8 à 20h40, Dernier domicile connu de José Giovanni en 69 avec Lino Ventura et Marlène Jobert. Il est vraiment bien ce film. Et un autre film qui il est vraiment bien, c'est à 22h30, U571 de Jonathan Mostow avec
bien.
Matthew McConaughey, Bill Paxton et Bon Jovi. Excellent film de sous-marin. Sur 13ème rue demain également à 20h40, L'œil du malin de Chabrol en 61 avec.
Ah oui, comment il s'appelle ?
Stéphane Audran,
ah, voilà.
Et Jacques Charrier. Et il rediffuse ce polar belge absolument époustouflant, excellent, La mémoire d'un tueur, demain à 22h05, d'Eric Van Looy, avec Yann Declercq dans le rôle du tueur qui est atteint d'Alzheimer et qui donc perd la mémoire. Et c'est vraiment bien, hein, qui se fait embarquer dans l'histoire pas louche, il doit tuer quelqu'un, c'est un tueur à gages. Et en fait, il se retrouve
clients.
Au milieu d'une conspiration, on se sert de lui et tout. Et parallèlement, on suit donc le parcours du tueur et on suit également le parcours de l'inspecteur en chef interprété par Cohn de Beau. C'est excellent vraiment, hein, on s'emmerde pas une seconde, du début jusqu'à la fin. C'est La mémoire d'un tueur d'Eric Van Looy sur Canal Jimmy demain à 22h05. Sur Polar à 21h demain, le grand cast de HB Maliki avec HB Maliki en 74 avec Marion Bouza et James McIntyre, et qui vérifie encore l'adage comme quoi il vaut mieux l'original que la copie, car on en a refait une copie au début des années 2000 et ça s'appelait 60 secondes chrono.
Oh non !
Celui-là est quand même vachement mieux. Hein. Demain sur la KFX,
tu nous écoutes.
Demain sur CinéFX à 21h, Zebraman de Takeshi Miike.
Oui,
avec Shoakawa et Kiyoshi Suzuki. J'ai juste noté les acteurs qui avaient les noms les plus faciles à prononcer. Sur Orange Ciné Géant également, demain soir à 20h40, L'amour vient en dansant de Sidney Lansfield avec Fred Astaire et Rita Hayworth, un film de 41, donc comédie musicale, bien sûr. Rita Hayworth, dont le vrai nom est Rita Cancino. Il y a également Robert Benchley dans ce film qui n'est pas désagréable comme comédie musicale, mais c'est pas un must non plus. Lundi sur France 3 à 23h, Mad Max 2.
Le meilleur.
Le meilleur, voilà, tout simplement. Hein. Et sur Arte, on se demande s'ils vont suivre cette filière tout au long de l'été, parce qu'ils nous diffusent donc la série du lundi, qui est généralement consacrée aux classiques du cinéma, on va dire. Là, c'est The Host de Bong Joon-ho en 2006. Donc, s'il continue comme ça l'été, on peut se dire, c'est cool, on va regarder Arte même le lundi, quoi. Sur RTL9, à 22h50, Anatomie 2 de Stefan Ruzowitski en 2003 avec Barnaby Mechurat, et Heike Makatch. Sur Comédie à 20h40, Grandeur et décadence de Robert Young en 92 avec Eric Idle sur un scénario de Eric Idle, le Monty Python, bien sûr. Rick Moranis, un des Ghostbusters, et les deux magnifiques Barbara Hershey et Catherine Zeta-Jones en 92. Attention là.
Ah ouais.
Eh ouais. Sur Sci-Fi, c'est le retour de Lorenzo Lamas dans Mega Shark et Versus Octopus de Jack Perez avec également Vic Chao et Deborah Gibson. Sur Cinéma Classique, toujours lundi, à 20h40, Pocket Money, Les Indésirables de Stuart Rosenberg en 71 avec Paul Newman, Lee Marvin et Strother Martin. Et à 23h, un film qu'il a fait vachement de bruit à l'époque, qu'on s'est tapé la bande originale tout au long de l'été, quoi, sur nos radios préférées.
C'était Robin des Bois.
I was born under a wandering star. Enfin, je chante très mal, comme d'habitude. C'est Lee Marvin qui chante, d'ailleurs. C'est La Kermesse de l'Ouest de Josh Logan en 69 avec Clint Eastwood et Gene Seberg. L'histoire de deux mecs qui vont, deux chercheurs d'or et tout, qui sont à bord d'une espèce de diligence qu'ils ont trafiqué et tout, quoi, et qui vont acheter une femme à un mormon.
D'accord.
C'est n'importe quoi, parce que c'est une comédie musicale en plus, hein, c'est-à-dire que la majeure partie du temps, il chante, Clint Eastwood compris. Donc c'est assez rigolo à regarder, quoi. Mais bon, franchement, quoi, bon, ça vaut pas tellement triper. Josh Logan, quand même, il nous avait fait quelques trucs pas mal. C'est un scénariste de Broadway, hein, au départ, hein, donc de comédie musicale, et qui nous a quand même fait comme deuxième long métrage Bus Stop en 56. Rappelez-vous, Marilyn Monroe, ben ouais, qui nous a fait également Sayonara, un film avec Marlon Brando qui est un peu dispensable, on va dire, hein, et qui nous a fait également Kaamelott en 67, dispensable également. Sur Polar demain, non, lundi, Détour de Edgar J. Ulmer, un bon polar de 45 avec Tom Neal et Anne Savage, et sur CineFX, un bon Lucio Fulci de 83, 2072, Les Mercenaires du Futur. Ah, les films post-apo. Hein,
allez, post-apo, ah, italien.
Ouais, facile. Mardi sur France 3, Rambo 3 à 22h05. Sur Paris 1ère, Papa, Maman, La Bonne et Moi de Jean-Paul Le Chanois en 54. Robert Lamoureux, Nicole Courcel, Fernand Ledoux, Gaby Morlaix et Louis de Funès. C'était un de ses premiers rôles. C'est un petit rôle, mais assez sympathique quand même. Sur NT1, mardi prochain, Slogan de Pierre Grimblat avec le film qui a réuni Serge Gainsbourg et Jane Birkin, qui se connaissaient pas avant, mais qui sont connus pendant le film. Daniel Gélin et Juliette Berthaud également. Berthaud, hein, rappelez-vous, La Maman et la Putain, quand même. Hein, ouais. Sur 13e rue, à 22h15, mardi, L'Horloger de Saint-Paul de Tavernier avec Noiret et Rochefort. Sur TF6, Max et Jérémy de Claire Devers avec Christophe Lambert et Philippe Noiret, ainsi que Jean-Pierre Mariel. Sur AB1, 20h40, mardi prochain, comment vérifier qu'un cinéaste qu'on adore, qu'on adule, qui a été un scénariste excellent, peut également faire des bouses. Supernova de Walter Hill avec James Spader, Angela Bassett, Peter Facinelli et Robert Forster. Sur TCM, mardi, une histoire vraie de David Lynch en 99 avec Richard Farnsworth, Sissy Spacek et Aydin Stanton. Sur Polar, un excellent polar de Fritz Lang, La Rue Rouge, Scarlet Street en version originale avec Edward G. Robinson et Joan Bennett. Et sur Action, un petit téléfilm que moi j'aime bien de Louis Morneau, La Nuit des Chauves-Souris avec Lou Diamond Phillips et Dina Meyer. Mercredi, hein ? Non, non, mais c'est rediffusé ça, non, celui-là.
Ah, oui.
Ouais, ouais, non, 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 c'est sympathique.
Je tiquais sur Dina Meyer, mais c'est.
Ah ouais, non, non.
Ça remontait le.
Oui. Je vois ce que tu veux dire. Mercredi, Paris 1ère à 23h55, Romance de Catherine Breillat pour voir la bite à Rocco et Catherine Caroline Ducey, Saga Morcel,
s'il vous plaît.
Et François Berléand. Bah si, hein, c'est, écoute, je suis désolé. Hein, c'est Catherine Breillat, hein, de toute façon. Quoi. NT1 également qui diffuse mercredi prochain à 20h35, Sniper 3 avec, bien sûr,
Tom Béranger
et Byron Mann, ainsi que Troy Winbush. Sur 13e rue, Le Cinquième Commandement de Jesse V. Jun et de Rick Yoon, dans lequel Rick Yoon joue également aux côtés de Keith David et Bookham Woodbine. Ah ouais, t'as vu comme je prononce bien.
Ouais.
Hein, Cinéma Club à 20h40. Les Faussaires de Stéphane Ruzovitsky, encore lui, 2007, avec Karl Markowitz et August Diehl, une histoire d'un mec qui est emprisonné dans le camp de Mauthausen, ouais, un camp de concentration, et qui doit fabriquer de la fausse monnaie pour inonder le marché anglais et le marché américain. Et si ça marche pas, il crève. Yeah. Sur Polar à 22h25, L'Engrenage fatal d'Anthony Mann avec John Ireland et Sheila Ryan. Et jeudi, Arte qui recommence ses Summer. Alors le dernier été c'était Summer of the 80s, on avait eu Summer of the 70s, là c'est Summer of the 60s. Avec tout d'abord le meilleur film de George Lucas à ce jour, 20h35, American Graffiti, avec Richard Dreyfuss, Ron Howard, Paul Le Mat, Sidney Williams et Harrison Ford qui se crachent dans une bagnole à la fin du film. À 22h25, Surf Now, Apocalypse Later, un documentaire sur le surf dans les années 60 aux États-Unis sur la côte californienne, documentaire de C&R Kupferberg, paru en 2002. Et à 23h20, Cerise sur le gâteau, Chuck Berry en concert au BBC Théâtre en 72, ainsi que Elvis en 56 à 0h20. Bah ouais, ça c'est une bonne soirée sur Arte, donc jeudi prochain. Sinon, sur RTL 9, jeudi prochain, 20h35, un bon Andrew Davis. Andrew Davis qui nous avait fait...
Le Fugitif
ouais, mais qui nous avait fait également Chuck Norris.
Un seul
ouais, il nous avait fait un Chuck Norris, excellent. Le premier polar de Chuck Norris en 86. Et là, c'est Opération Crépuscule, donc en 89, avec Gene Hackman, Joanna Cassidy, Tommy Lee Jones et Pam Grier. jeudi toujours sur NT1, l'homme du président de Eric Norris avec Chuck Norris, Johnson Mills, Robert Ulrich et Jennifer Tung, pardon, on ne pourra pas confondre, ce n'est pas la sœur de Stanley Tung.
Oui, oui.
Hein, ok. À 22h15, Earth vs. The Spider de Scott Zee avec Don Aykroyd. Dan Aykroyd, attends, Devon Gummersall et Teresa Russell. Et sur Sci-Fi, si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le, c'est Joe Dante, 81, Hurlement, John Carradine, Patrick McNee et tous les autres, excellents. Sur TF6, 20h40, celui-là, on peut s'en dispenser, mais c'est toujours rigolo si vous avez rien d'autre à foutre. Steven de Souza en 94.
Oh là là.
Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme et Kylie Minogue. Ouais.
C'est vraiment, ça n'a rien à foutre, hein.
Sur TV... non, c'est un chef-d'œuvre, arrêtez.
Sur TV Braise.
Et non, mais le plus fort, c'est que notre spécialiste jeu de baston en maison, qui est Sébastien, qui m'a confirmé que la suite, la légende de Chun-Li, était bien plus ratée que le premier.
Ah bah ouais.
Ah, je me demande si même il a été distribué au cinéma en France.
Non, je crois qu'il est direct ou vidéo avec un membre des Black Eyed Peas qui joue Vega dedans.
Ah oui, donc effectivement, ça doit vraiment être une merde.
Sur TV Braise, jeudi prochain, 22h10, Anatomy, l'original de Seven Russovitsky, en 2002, avec Franca Potente, hein, c'est l'original donc, hein, et Benno Furman. Sur Cinéma Club, une curiosité, si vous ne l'avez jamais vu, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, ça s'appelle Marquis, de Henri Xonneux. Ce nom te dit quelque chose, Xavier? Henri Xonneux. Animation franco-belge. Avec des marionnettes, ça passait, ça repasse toujours. C'est un truc culte pour les petits, mais également pour les grands.
Téléchat ?
Téléchat, tout à fait. Et donc, il livre sa version de l'histoire du Marquis de Sade. Oh. Il se fait emprisonner.
Oula.
Donc,
déjà que c'était glauque des fois, Téléchat, mais alors là.
Et là, bon, bah, en fait, c'est plus ou moins qu'un monologue ou qu'un dialogue entre le Marquis de Sade. Alors, c'est pareil, hein, c'est animation de marionnettes, poupées comme dans Téléchat. Sauf que là, c'est le Marquis de Sade qui parle à son sexe, qu'il appelle Colin. Mais ça vaut son pesant de cacahuète. Ça date de 89 et c'est vraiment excellent.
Non, t'aurais dû dire de couilles comme d'hab, mais je te signale qu'on n'est pas encore à 22h30 là.
Non, les couilles, c'est partie du sexe masculin. Sur CinéFX à 21h, La révolte des zombies de Victor Halperin en 1936 avec Dorothy Stone et Dean Jagger. Dean Jagger qui joue également le rôle du papa d'Elvis Presley dans King Creole. Eh ouais. Sur Action, jeudi prochain 20h40, Hotspot de Dennis Hopper avec Don Johnson, Jennifer Connelly, Virginia Madsen ainsi que William Sadler. Et on termine avec Vendredi sur RTL9. Alors je sais pas si vous avez vu Twin Effects hier soir, c'était absolument excellent, monstrueux, excellent, délirant complet.
Je m'étais marqué pourtant.
Je savais pas que c'était un film qui était produit par Jackie Chan, dans lequel il fait deux apparitions tout à fait remarquables dans deux rôles différents. Mais c'est une histoire de chasseur de vampires et tout. C'est un petit peu un Buffy contre les vampires et tout. Mais c'est carrément.
Sans ce HK.
Ouais, non, mais c'est carrément hilarant, c'est excellent. Là, on nous propose toujours dans ce Shaolin Arts Martiaux de RTL9 le vendredi soir à 22h30, Flying Dagger de Yen Ping Chu en 93 avec Tony Leung, Ka Fai et Jimmy Lin, ainsi que toute la dynastie des Chung. Il y a Charla, il y a Maggie et il y a Jackie Chung. Sur RTL9 vendredi prochain.
Non,
je crois qu'il y en a deux qui sont frères et sœurs, il me semble. Jackie et Charla, je crois qu'ils sont les deux ensemble, quoi. Enfin, frères et sœurs. Sur Ciné Cinéma Classique, vendredi prochain à 20h40, Les Amants Diaboliques de Luchino Visconti, un film excellent avec Clara Calamai et Massimo Girotti, qui est en fait l'adaptation italienne de Luchino Visconti du Facteur sonne toujours deux fois. Hein, donc, ouais, d'accord. Tiré du bouquin de James McCain. Sur TCM, vendredi prochain à 20h40, Les Maraudeurs attaquent, ou Meryl's Maraudeurs en version originale avec Jeff Chandler, et Ty Hardin. Un Samuel Fuller de 62, film de guerre, toujours, c'est une soirée. Samuel Fuller sur TCM vendredi prochain, Ordre secret aux espions nazis, alors que le titre original c'est Verboten. Avec James Best et Sandra Cumming, Samuel Fuller qui a fait pas mal de films de guerre, mais également quelques films toujours polémiques, on va dire. Hein,
le son... Il y a encore un traducteur qui a voulu faire du zèle dans la traduction du titre.
Le premier en 49, c'est I Shot Jesse James. Ensuite, il nous fait le port de la drogue. Le titre n'a rien à voir parce que c'est même pas une histoire de drogue. Il y a tous une histoire d'espions qui chassent des communistes. Donc, on voit pas où est la drogue, mais enfin bon, laisse tomber. Hein. Il a fait le jugement des flèches en 56.
Ah, ouais. Bah, tout le monde sait que la religion, c'est l'opium du peuple.
Il a fait également 40 tueurs en 57. Ça, c'est un excellent western. Shock Corridor en 63 et Police Spécial. Un polar vraiment burné, hein, assez violent en 64. Sur Polar, justement, la chaîne Polar à 21h vendredi prochain, le mystère du Dr Wong de William Nye en 39 avec Boris Karloff dans le rôle titre. Et je termine avec le film de action vendredi prochain à 21h qui est un western saké. La brute, le colt et le karaté d'Antonio Margheriti en 74 avec Lee Van Cleef et Kevin Yeh. Antonio Margheriti qui a également tourné pas mal de films sous son pseudo anglais Anthony Dawson. Rappelez-vous, Piranhas. Mais oui, eh oui, Antonio Margheriti. Donc c'est vendredi prochain sur la chaîne Action à 21h. La brute, le colt et le karaté. Yeah.
J'ai honte. Thomas, s'il te plaît, tu sais, il y en a qui nous écoutent en FM ou qui arrivent dans les studios pendant le direct et tout, et qui nous écoutent pas encore sur le podcast ou en différé et tout le reste, et ils sont arrivés et ils ont manqué quelque chose au début.
Et oui, donc ils ont certainement raté des os d'animaux brisés, du peintre lubrique, des nanas folles et vénéneuses, des têtes éclatées et des œufs sur un terrain de foot. Une équipe A, faut se mettre à 5 ans pour comprendre quelque chose à Lost. Des Madame Irma à grande échelle, un tueur amnésique belge, le retour du requin et de l'octopus, des araignées, du post-apo spaghetti et des cacahuètes et des couilles.
Merci! Et nom d'une vague, vous avez manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, écouter les anciennes émissions, fouiller dans nos archives, retrouver les chroniques écrites, par exemple cette semaine, Paulette Comet, Angel Voice, Océan et plein d'autres choses derrière. Mais pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr, sans accent ni tiré, supplementweekend.fr. Vous écoutez FM1 sur 89.1 MHz, nous sommes en direct. À partir de 17h, Booster FM prend la suite, tandis que nous restons en continu sur le site web www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, je ne sais pas trop. En attendant, de suite, eh ben, c'est du sport. Et à partir de 14h, la dernière journée de la Ligue de l'Enseignement, ce sera en direct jusqu'à 17h. De suite, c'est du ciao, bye bye. Et tassons professionnellement les feuilles de conducteur. Merci.